Je vous invite aujourd'hui, mes chers amis, à approfondir un aspect du Sacré-Cœur que vous connaissez bien, mais que nous pouvons toujours approfondir, le cœur miséricordieux de Jésus, qui aime nous pardonner nos péchés, qui aime nous guérir de tout ce qui doit être guéri dans notre cœur, pour que nous ayons une âme pleine de miséricorde à l'égard de nos frères et pleine d'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser dans ce domaine-là? Eh bien, il faut d'abord découvrir que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, de découvrir notre péché. Et cela se fait de 36 000 façons. Vous avez ceux qui ont commis beaucoup de péchés dans leur jeunesse, qui ont eu une vie assez dévergondée. Je pense évidemment au père de Foucault, qui a fait les 400 coups dans sa jeunesse tout en ayant une âme très généreuse et qui se convertit brusquement en fin octobre 1886, brusquement, mais après avoir été préparé par le contact avec sa cousine Germaine, qu'il aimait beaucoup et qui a eu beaucoup d'importance dans sa vie. Bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain quand même, mais conversion brutale. Conversion brutale et magnifique. Ou bien quelqu'un dans un tout autre domaine, un prêtre qui découvre après 25 ans de sacerdoce qu'il n'a pas beaucoup prié. Et puis, à l'occasion d'un accident de santé, voici qu'il se retrouve chez un médecin et il découvre la prière d'Élisabeth de la Trinité. Ça change complètement sa vie. Il y a un avant et un après. Ce n'est pas un grand pécheur, mais il avait beaucoup négligé la prière, tellement il se donnait à fond dans son apostolat et dans son désir de ramasser beaucoup d'argent pour le tiers-monde. Vous avez des gens qui se convertissent brutalement. Je pense à une personne qui n'allait plus à la messe depuis très longtemps, alors que son mari y allait régulièrement. Elle avait une belle profession, elle rendait beaucoup de services. Et puis, au cours d'une retraite, voilà qu'elle se met à rencontrer le prédicateur que j'étais. Et spontanément, elle se met à parler de sa jeunesse. Et elle se rend compte tout à coup qu'elle n'a jamais demandé pardon à personne. C'est une fille qui travaillait bien, mais qui avait l'habitude de bouder facilement. Et alors, quand elle boudait, son papa lui disait « Tu boudes, ma fille, va te coucher, demain, ça ira mieux. » Et effectivement, elle se levait de table, se privait de dessert. Et le lendemain matin, le papa ne revenait jamais sur la bouderie de la veille. Comme c'était une enfant qui travaillait bien par ailleurs, on lui pardonnait toutes ses sautes d'humeur. Et elle se rend compte à 35 ans, qu'elle n'a jamais demandé pardon à personne, ni à son papa, ni à son mari, ni au bon Dieu. Et c'est une conversion immédiate. Elle se met à pleurer d'elle-même. Mais que je suis orgueilleuse, voilà. Et finalement, c'était un peu de la faute de son papa, qui croyait bien faire en passant l'éponge. Et donc, elle n'avait jamais demandé pardon à personne. Et ça change sa vie. Alors, c'est peut-être quelque chose de tout à fait différent. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a mis 10 ans à comprendre quelque chose. Elle dit ensuite qu'elle a fait une course de géant. Mais Thérèse, qu'est-ce que tu as avancé comme un escargot pendant 10 ans? Tu savais qu'il fallait faire plaisir au bon Dieu, bien sûr, et tu faisais des sacrifices pour faire plaisir au bon Dieu. Mais tu voulais aussi beaucoup faire plaisir à ton cher petit papa. Et quand tu n'avais pas de très bonnes notes à la fin du mois, te permettant d'avoir la médaille qui récompensait les élèves ayant régulièrement la moyenne en calcul et en orthographe, qui n'étaient pas tes matières fortes, tu pleurais pendant 5-10 minutes. « J'ai pas la médaille, ma soeur. Qu'est-ce qu'il va dire, papa ?» Son papa ne la grondait pas, mais voilà, elle voulait être très très gentille, très, 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 très méritante aux yeux de son papa. Et elle se rendait compte que l'essentiel, elle ne se rendait pas compte que l'essentiel, c'était de faire plaisir au bon Dieu. Cette grande sainte, cette petite Thérèse, elle met 10 ans à comprendre cela. Quel retard! Voyez, Nous avons tous comme ça, même si nous sommes très généreux au point de départ. Il y a un moment dans notre vie où nous nous rendons compte, ce n'est pas forcément un gros péché, mais qu'est-ce que je suis orgueilleuse, qu'est-ce que je suis en retard, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je manque, combien je manque de générosité vis-à-vis du Seigneur. Voilà. Notre pape actuel se souvient qu'étant adolescent, il a fait une bonne confession. Et c'est en recevant ce pardon qu'il a réalisé qu'il devait devenir prêtre. Si bien qu'il a pris comme devise une expression, deux verbes au gérondif en latin, « miserando atque eligendo ». J'ai été choisi pour être prêtre, j'ai été appelé au moment même où Dieu me pardonnait. Et c'est pourquoi il a toujours beaucoup aimé un tableau qui se trouve dans l'église de Saint-Louis des Français à Rome, où l'on voit le doigt de Jésus pointer le Saint Matthieu, je te choisis, même si tu es un publicain qui ne pense qu'à gagner de l'argent, je te choisis et en même temps je te pardonne. Donc souvent, c'est le moment où nous sommes pardonnés d'un péché grave ou pas grave que nous nous rendons compte que Dieu nous aime, que Dieu nous aime malgré notre péché. Car je pense que pour être chrétien, il faut se rendre compte qu'on est un pauvre type comme tout le monde, qu'on est un pauvre pécheur, qu'on a le péché originel comme tout le monde, et que Dieu nous aime quand même. Voilà. Donc, il faut découvrir sa condition de pécheur. Cela suppose évidemment qu'on ait un minimum d'humilité, qu'on ne soit pas toujours quelqu'un qui pense qu'il fait tout bien et qui n'a aucun conseil à recevoir et aucun pardon à demander. Ensuite, cette miséricorde, après l'avoir découverte, il faut l'accueillir vraiment et croire que Dieu nous pardonne, nous lessive, que son pardon est capable de nous rendre plus blancs que neige. Et donc, s'enthousiasmer en lisant ces passages d'évangile où l'on nous dit que le Seigneur nous pardonne totalement, qu'il lessive complètement notre âme, qu'il la rend plus blanche que neige, qu'il met derrière lui tout le péché. Voilà, que le pauvre pécheur que nous sommes devient un petit prince. Pépépé devient pépé. Pauvre pécheur pardonné devient petit prince ou petite princesse. Voilà. Et Gabriel Bossis, dont nous parlons souvent en ce moment, entend Jésus lui dire, tu sais, j'aime beaucoup réparer la porcelaine. Et du coup, j'ai appris que dans le sud-est asiatique, on réparait les objets en porcelaine. Nous, nous les jetons à la poubelle. Non, là-bas, on les répare avec des filets d'or. Si bien qu'un objet réparé est parfois plus cher qu'un objet neuf. Et c'est beaucoup de chrétiens ont pris cela. Gustave Thibon disait volontiers, ce que l'homme répare est toujours plus pauvre et plus précaire qu'avant l'accident ou l'usure. Mais quand il s'agit de Dieu, ce qu'il répare est plus vierge et plus profond que dans son intégrité primitive. Et oui, si vous achetez une voiture, il vaut mieux, si vous avez suffisamment d'argent, acheter du neuf que de l'occasion. Mais dans le ciel, il n'y aura que des occasions. Sauf Jésus et Marie, nous serons tous des personnes qui auront été réparées. Et quand Dieu répare, il répare encore mieux que si c'était du neuf. Et Saint Jean de la Croix dit la même chose, parce que Dieu fait une œuvre plus grande quand il pardonne que lorsqu'il crée. Quand il crée quelque chose à partir de rien. Quand il répare quelque chose qui est tordu. Et nous sommes tous des gens plus ou moins tordus que le Seigneur répare. Si bien que lorsque nous sommes réparés, nous sommes plus beau en quelque sorte que si nous étions tout neufs. C'est très important. Et vous savez combien les psaumes chantent cela, notamment le psaume 50. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oh oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. Eh oui, et les poètes aiment chanter cette purification, cette illumination qui se fait lorsque nous reconnaissons notre péché, que nous accueillons la miséricorde de Dieu. Quand tu confesses tes faiblesses, Dieu les transforme en allégresse. Montre ta plaie du cœur au soleil du Seigneur, il guérit en douceur. Le Créateur m'a fait, mes péchés m'ont défait, mon pardon, son pardon me refait. De ton tissu noir de pécheur, Jésus l'expert-maître tailleur peut faire un habit de blancheur. Jésus déchire tes péchés et les brûle dans le brasier, puis te punit par un baiser. Pauvre pécheur blessé par tes chaînes qui grincent, tu deviens petit prince quand Dieu t'a pardonné. Oui, nous aimons chanter des cantiques qui, justement, célèbrent cette transfiguration que le Seigneur peut nous donner quand nous acceptons son pardon. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens sauver ce qui était perdu. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà, le Seigneur transforme complètement notre cœur, le guérit, le purifie. Et donc, nous devons non seulement accepter cette miséricorde, mais nous réjouir du pardon reçu, faire accepter le festin que le Père propose à son enfant qui revient, le festin de l'enfant prodigue, accepter l'allégresse que le Seigneur nous demande, nous réjouir. Et le plus heureux lorsque nous sommes pardonnés, c'est Jésus qui a été heureux de faire son travail de sauveur, de chirurgien. Il remet en place ceux qui étaient un peu tordus. Et il m'est arrivé de composer une petite chanson pour exprimer la joie de personnes qui ont été bouleversées d'être complètement guéries de la boue dans laquelle elles s'étaient laissées aller. Je suis la petite mioche du bon Dieu, l'enfant chéri de mon père. Je le verrai dans les cieux, je le chante sur terre. Ma vie n'a pas toujours été drôle, j'ai dû vivre avec mes secrets. Je n'ai pas toujours eu le beau rôle et personne à qui me confier. Je suis la petite mioche du bon Dieu, l'enfant chéri de mon père. Je le verrai dans les cieux, je le chante sur terre. Je n'ai guère reçu de taloche au cours de mes jeunes années. Mais mon Dieu, que mon cœur était moche, même si je n'osais pas me l'avouer. Je suis la petite mioche du bon Dieu, l'enfant chéri de mon père. Je le verrai dans les cieux, je le chante sur terre. Aujourd'hui je vois ma faiblesse, le Seigneur a daigné m'éclairer. Je goûte enfin sa tendresse, car je suis vraiment délivré. Je suis la petite mioche du bon Dieu, l'enfant chéri de mon père. Je le verrai dans les cieux, je le chante sur terre. Je n'ai pas connu l'innocence d'un enfant préservé du péché, mais Dieu m'a donné l'espérance d'être totalement pardonné. Eh oui, et c'est pourquoi les Maria Goretti peuvent être dépassées par les Marie-Madeleine. Jésus l'a dit, les prostituées et les publicains vous précéderont dans le royaume des cieux, non pas à cause de leurs grands péchés, mais parce que lorsque ces personnes acceptent le pardon, elles chantent la miséricorde de Dieu mieux que les autres. Ceux qui réussiront le mieux leur vie éternelle, ce sont ceux qui chanteront le plus la miséricorde de Dieu. Mais allez, vous allez me dire, mais alors, si on n'a pas beaucoup péché, c'était le problème de la petite Thérèse. Seigneur, ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas fait beaucoup de fautes, j'ai tellement été préservé, alors je ne pourrais pas chanter la miséricorde de Dieu comme les autres. Alors elle comprend qu'elle pourra chanter cette miséricorde encore plus parce qu'elle aura été préservée du péché. Au lieu de guérir son enfant, le médecin est allé sur la route enlever les cailloux, les rochers sur lesquels il aurait pu se blesser. Voilà, j'ai cet enfant qui était tellement faible que le Seigneur s'est arrangé pour que je ne tombe pas trop gravement, parce que je suis tellement fragile que si j'étais tombé, j'étais été terrible. Voilà, c'est très important. Déjà, un père de l'Église disait, c'était saint Clément de Rome qui disait ça aux Corinthiens, que celui qui est chaste ne se vante pas de sa chasteté, de sa pureté, parce que cette chasteté, cette pureté lui a été obtenue par un grand pécheur. Voilà, dans le ciel on s'apercevra que si des personnes sont restées pures, c'est parce qu'elles ont été portées par la prière de personnes un petit peu plus pécheresses. Voilà, et c'est pourquoi il n'y aura aucune jalousie dans le ciel. De toute façon, il faut chanter la miséricorde de Dieu, quelle que soit l'importance ou la non-importance de nos péchés. Nous sommes tous des gens qui ont eu besoin de la miséricorde de Dieu. Et les grandes joies de je pense que, pour le dire tout de suite, les grandes joies de notre vie, ce sont les fautes caractéristiques de vanité, surtout, que l'on fait, et qui sont ridicules finalement. Ou bien les petits actes bien cachés d'humilité dont on a conservé un bon souvenir. C'est peut-être les deux choses dont on se souvient le plus quand les ans pèsent sur nous. On voit combien on a été bêtes, orgueilleux à certains moments, et combien le Seigneur nous a donné la grâce de faire des choses bien cachées, que les autres n'ont jamais connues, mais que nous sommes contents d'avoir offert au Seigneur dans le secret de notre cœur. Voilà, nous réjouir d'être un enfant sauvé par le Seigneur. Et c'est ce qui faisait dire à Thérèse, elle insistait beaucoup là-dessus, notamment dans son courrier avec un futur père blanc, Maurice Bellière, qui se lamentait un peu trop de ne pas avoir bien vécu son service militaire. Oh, il n'était pas allé à Pigalle, mais il avait l'impression d'avoir mal vécu, d'avoir vécu trop peu généreusement son service militaire. Il en faisait tout un plat. Et Thérèse lui dit, mais quand est-ce que vous allez finir par vous réjouir de la miséricorde de Dieu? Nous ne sommes pas des saintes qui passons leur temps à plaire nos péchés, mais à chanter la miséricorde de Dieu. Voilà, le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse, mais ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Il faut faire chanter son passé. Voilà. Ensuite, il faut approfondir ma contrition, parce que j'ai une petite tendance à oublier que ce pardon, je le dois à la passion du Seigneur. Nous avons vu par ailleurs que c'est sur la croix que le Seigneur a offert à son Père un sacrifice qui ne mérite le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu reste bien sûr quelque chose de gratuit, mais Dieu a voulu que nous le recevions également à cause du sacrifice que Jésus a offert. Et donc, les chrétiens finissent par se souvenir un petit peu plus que c'est Jésus qui les a libérés du péché. Et c'est pourquoi il est bon de se préparer devant un crucifix. Et c'est la raison pour laquelle le prêtre va faire un signe de croix sur nous au moment où il nous donne le pardon, pour nous rappeler que c'est par la croix du Christ que nous avons été sauvés. Et le curé d'Ars insistait tellement là-dessus que lorsqu'il confessait les hommes, il leur donnait comme pénitence d'aller s'agenouiller devant une statue qui se trouvait dans l'église d'Ars, et où Jésus était tendu par terre après avoir été sorti du tombeau. Et il voulait que les hommes s'agenouillent devant cette statue de Jésus étendue sur la banquette du tombeau pour réaliser que c'était à cause de leurs péchés que Jésus avait souffert. Voyez, c'est très important de ne pas oublier la passion. Et c'est la passion qui nous empêche de considérer les péchés comme des péchés mignons. Le curé d'Ars ne supportait pas qu'on puisse dire qu'un péché est mignon. Parce qu'un péché, c'est quelque chose qui a blessé Jésus. Et le moindre péché a blessé Jésus. Donc, il ne supportait pas qu'on puisse qu'il y avait des petits péchés. Non, non, comme c'est dommage. C'était l'adjectif qu'employait souvent le curé d'Ars en parlant du péché. Comme c'est dommage. Comme c'est dommage de faire souffrir Jésus comme cela. Donc on approfondit notre contrition en méditant davantage la passion. Voilà. Il a souffert à cause de moi. Ah mes amis, je pleure de ce que vous ne pleuriez pas. Alors c'est vrai qu'il faut se réjouir du pardon de Dieu, mais de temps en temps, les pleurs ça fait du bien, parce que ça met un petit peu plus de douceur dans notre cœur. Ça nous empêche de conserver la raideur qui trop souvent nous empêche de reconnaître notre culpabilité. Et puis, la miséricorde de Dieu, il faut de nouveau y recourir parce que nous récidivons, nous prenons des résolutions, mais nous ne les tenons pas, nous récidivons. Et il faut donc non seulement découvrir la miséricorde, accueillir la miséricorde, nous réjouir de la miséricorde, approfondir la miséricorde, mais rebondir après une récidive. Et sans se souvenir les conseils bien précis que donne saint François de Sales, il faut avancer à petits pas. Il faut prendre des résolutions modestes que l'on est capable de tenir un moment. C'est important de prendre des résolutions quand on s'est confessé. Bien sûr, des résolutions, on ne les tient pas parfaitement. On prend résolution sur une question difficile. Par exemple, moi-même, je n'ai jamais pris la résolution de ne plus fumer, puisque je n'avais jamais fumé. C'est trop facile, là. Hein ? On prend une résolution dans un domaine où l'on est spécialement fragile et où l'on va essayer de faire un petit pas, rien que pour aujourd'hui. C'est très, très important, hein, de prendre des résolutions adaptées à notre situation, à dire « je vais au moins essayer de tenir pendant 15 jours pour que cette résolution soit efficace ». Mais alors, quand on récidive comme ça, il faut surtout ne pas se décourager. Le découragement, c'est l'arme essentielle dont Satan se sert pour faire tomber les gens. Un jour, on raconte que Satan avait mis en vente tous ses objets dans une brocante. Et il y avait un objet très rouillé qu'il vendait beaucoup plus cher que les autres. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, ça, c'est l'arme du découragement, parce que c'est celle qui fait tomber le plus les gens. Il ne faut jamais se décourager. Même si vous allez parfois de mal en pis, si vous commettez des péchés à un certain moment que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir commettre lorsque vous étiez plus jeune, oh, il ne faut surtout pas désespérer. C'est ce que dit merveilleusement le père Lacolombière, Claude Lacolombière, le directeur spirituel de Sainte-Marguerite-Marie à Paray-le-Monial. Je vous ai gravement offensé, mon aimable Rédempteur, mais ce serait bien encore pire si je vous faisais cet horrible outrage de penser que vous n'êtes pas assez bon pour me pardonner. C'est en vain que votre ennemi et le mien me tend tous les jours de nouveaux pièges. Il me fera tout perdre plutôt que l'espérance que j'ai en votre miséricorde. Quand je serai retombé 100 fois et que mes crimes seraient 100 fois plus horribles qu'ils ne le sont, j'espérerai encore en vous. Saint-Claude la Colombière. C'est ce que chante évidemment la petite Thérèse. Et je prends la mélodie chantée par Sylvie Buisset, qu'elle a chanté ça pendant des années dans les soirées qu'elle donnait. Voici, j'avais commis tous les crimes possibles. Je garderai toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent, n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Oui, j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse qui reste mon appui et sans aucun retour, qui aime tout en moi et même ma faiblesse et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour. Non, je n'ai pu trouver nulle autre créature qui m'aima à ce point et sans jamais mourir, car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent, n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Vous savez que c'est ce que dit Thérèse à la fin de son dernier manuscrit. Moi, si j'avais commis tous ces crimes, tous les crimes possibles, j'irais le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que, dans sa immense miséricorde, le Seigneur a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui, que je m'élance envers lui par la confiance et l'amour. Et alors, pour justement réussir à progresser à petits pas, il est bon de goûter la prudence du bon pape Jean XXIII. Quand on lit son journal spirituel, il reprenait régulièrement des résolutions, manger moins de pâtes pour sa santé, et puis cultiver l'instant présent, rien que pour aujourd'hui. Et il en avait fait une espèce de décalogue, de règles de vie, qu'il a beaucoup appliqué pour ne pas perdre de temps dans les différentes fonctions qui lui ont été confiées. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie. Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de manière courtoise. Je ne critiquerai personne. Je ne prétendrai ni corriger, ni régenter qui que ce soit, excepté moi-même. Aujourd'hui, je serai heureux, rien qu'aujourd'hui, sur la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai 10 minutes à une bonne lecture, en me rappelant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action, et je n'en parlerai à personne. C'est la devise du scout, faire une BA, une bonne action, bien cachée. Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas du tout envie de faire. Et si on m'offense, je ne manifesterai pas ma colère. Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances sans prétendre que celles-ci cèdent à tous mes désirs. Autrement dit, je croirai à la Providence. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai sans doute pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de 2 calamités, la paresse, la hâte et l'indécision. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si les circonstances attestent le contraire, que la Providence de Dieu s'occupe de moi, comme si rien d'autre n'existait au monde. Ça, c'est une constante de tous les saints, croire à la Providence. C'est un summum de sainteté, et nous savons que c'est Jésus qui nous aide à le faire. Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte, et tout particulièrement, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté. » Et il termine, « Je suis en mesure de faire le bien pendant 12 heures, ce qui ne saurait me décourager, comme si je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant. » Voilà ce que ce saint pape Jean XXIII avait eu la sagesse de prendre comme résolution. Voilà. Et il est important de conserver toujours le désir de faire mieux, de faire un petit progrès par rapport à la veille, plus près de toi, de chanter ce chant que nous aimons bien et qui manifeste notre désir de nous approcher de plus en plus du Seigneur, de l'aimer de plus en plus, de le regarder de plus en plus, d'avoir envie de plus en plus de le retrouver dans le ciel. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Qui donc pourrait combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande de l'amour parfait? Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité? Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix, donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur, moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Voilà. Eh bien, je pense que il est bon de nous rappeler l'importance du sacrement de réconciliation, parce que c'est bien de demander pardon au Seigneur, c'est bien d'accepter son pardon, c'est bien de nous réjouir de son pardon, mais alors à quoi ça sert de se confesser? Parce que l'Église nous le recommande beaucoup, ce sacrement, et malheureusement, dans notre vieille Europe, il est très peu pratiqué, il est fort abandonné. Alors je rappelle d'abord les slogans qui empêchent beaucoup de gens d'aller se confesser. Il y en a quelques-uns qui sont simples à réfuter. Par exemple, moi je n'en ai pas envie, je n'ai pas envie de me confesser. Ben vous savez, il y a des choses dont on n'a pas envie et qui sont très importantes. La veille d'une opération chirurgicale, on n'a pas tellement envie d'aller sur le billard, et pourtant, il est urgent d'y aller. Ou bien, c'est humiliant, c'est trop humiliant d'aller dire ces bêtises à quelqu'un, à un prêtre. Oh, ça c'est facile d'y répondre. D'abord, vous avez toujours le droit d'aller voir un prêtre que vous ne connaissez pas. Bon, parce qu'on peut être gêné de dire des péchés à un prêtre avec lequel on collabore beaucoup en paroisse. D'autre part, et surtout, dites-vous bien que le prêtre ne vous n'importe quel prêtre vous le dira, il ne vous méprisera jamais, même si vous dites des fautes assez graves. Il appréciera beaucoup plus la confiance avec laquelle vous les accusez, l'humilité avec laquelle vous les accusez, que tout ce que vous pouvez dire. Et puis, j'allais dire, il en a entendu d'autres. Donc cette humiliation n'a pas lieu d'exister. Et encore une fois, vous pouvez toujours aller vous confesser à un prêtre que vous êtes sûr de ne pas rencontrer dans la suite. Une autre objection plus intelligente peut-être, mais qui n'est pas une bonne raison. Les prêtres ont autre chose à faire que de confesser. Il y a tellement de choses à faire par ailleurs. Non, c'est essentiel. Ce ministère de la confession est très important. Rappelez-vous que le curé d'Ars s'y consacrait énormément de temps. Même si vous n'avez pas l'impression que vous en avez besoin, nous allons voir que vous recevez une grâce spéciale quand vous allez vous confesser. Et puis, je préfère me confesser directement au bon Dieu. Ben bien, vous avez raison de vous confesser directement au bon Dieu, c'est fondamental. Vous vous confessez de temps en temps, mais c'est tous les jours que vous dites « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est en récitant le Notre Père, vous vous confessez directement au bon Dieu. Alors je voudrais vous rappeler ce qu'est le sacrement de réconciliation. Comme tous les sacrements, c'est un sacrement à deux temps. C'est d'abord une action de celui qui se confesse, et ensuite c'est une action du prêtre qui vous reçoit et qui, au nom du Seigneur, va vous donner une grâce. C'est d'abord une confession, et ensuite c'est une absolution. Bon, quand vous allez vous confessez trois choses, aussi importantes l'une que l'autre. Alors vous pensez évidemment que vous confessez sur tous vos péchés, c'est vrai. Vous reconnaissez que vous avez péché, que c'est de votre faute. Vous avez péché par pensée, par parole et par omission. Souvent, nos gros péchés sont des péchés d'omission. Nous oublions les vérités. Or, l'un des grands commandements de la Bible, c'est « Souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Souviens-toi de la passion du Seigneur. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi. » Non, donc, souvent, nos péchés sont des péchés par omission. Mais nous confessons d'abord que Jésus est notre Sauveur. Nous avons vu que Jésus a offert un sacrifice à son Père pour la rémission de tous les péchés du monde. Un sacrifice qui ne supprime pas la gratuité du pardon que Dieu nous donne, mais le jour même de Pâques, où il vient de sortir vivant de sa tombe, Jésus a transmis à ses apôtres le droit et le pouvoir de pardonner aux hommes leurs péchés. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ce sont nos péchés qui ont été la cause de toutes les souffrances que Jésus a endurées. Il est donc normal, il est que juste, que je lui en demande pardon et que je lui procure la joie de m'accorder ce pardon. Et comme ce sont les prêtres de son Église qu'il a chargé de nous transmettre ce pardon, j'obéis à un ordre explicite de Jésus en allant demander à un prêtre de me le donner. Bien sûr que l'immensité des les millions et les milliards d'hommes qui ne se confessent jamais reçoivent quand même le pardon de Dieu, mais quand ils le reçoivent aussi par l'intermédiaire de l'Église. Je n'ai pas le temps de développer cet aspect, car Jésus ne fait rien sans son Église. Jésus est comme marié avec son Église, un époux fait tout avec son épouse. Donc avant de confesser mes péchés, je confesse ma foi. Je proclame que je dois à Jésus le fait d'être pardonné de mes péchés, que j'ai été sauvé par le sang qu'il a versé sur la croix. Ce n'est donc pas seulement pour recevoir une grâce que je vais me confesser, mais pour offrir à Jésus ce merci qui lui fait grand plaisir. Je le remercie d'avoir souffert pour moi. C'est pourquoi il est bon de se confesser devant un crucifix, et le signe de croix que le prêtre va faire tout à l'heure sur moi rappelle de nouveau le sang du Christ qui m'a sauvé, qui m'a lavé. Je confie mes péchés et puis bien sûr, je confie aussi la résolution que je prends pour progresser, la conversion que je décide de faire. Je confesse que je veux faire un sérieux effort pour ne plus pécher dans l'avenir. Et je confie cette décision que j'ai prise au prêtre pour que le prêtre vienne consacrer. Il y a une consécration dans le sacrement de pénitence, comme dans l'Eucharistie. Ce n'est pas du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ, c'est mon cœur contrit que Jésus va reprendre en main pour en faire un cœur encore davantage contrit, encore davantage repentant. Nous allons voir que, justement, dans un deuxième temps, ce n'est après l'exhortation plus ou moins longue que le prêtre nous a faite, c'est au prêtre d'agir. Et là, il va y avoir une transformation de mon cœur. Seulement, je ne sens pas. la plupart du temps. Je ne sens absolument pas comment mon cœur est transformé, mais il l'est bel et bien. Ne soyez pas étonnés que vous ne sentez pas plus la transformation de votre cœur lorsque vous vous confessez que lorsque vous communiez. Donc, dans un deuxième temps, le prêtre, agissant au nom du Christ, me donne l'absolution en disant « Je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et je réponds plein de reconnaissance « Amen ». Et c'est Jésus lui-même qui intervient. Il s'empare de la résolution que je viens de confier et le prêtre la consacre dans ses mains par une effusion nouvelle de l'Esprit-Saint, une effusion qui purifie mon cœur. Dans tous les sacrements, c'est Jésus qui, par l'intermédiaire d'un ministre, d'un diacre, d'un prêtre, ou parfois d'un laïc, vous communique une grâce. Et il y a une grâce de purification attachée au sacrement de réconciliation. Cette effusion de l'esprit, le prêtre l'exprime en étendant d'abord la main sur vous, avant de prononcer les paroles de l'absolution, tout en traçant sur vous le signe de la croix. Après ma confession, il est bon de me recueillir en pensant au travail de purification qui vient de se réaliser dans mon âme et d'en remercier les trois personnes de la Sainte Trinité, heureuses du travail qu'elles viennent d'y accomplir. Ce serait bon de chanter dans le fond de mon cœur un Magnificat ou toute autre parole qui exprimerait ma joie d'être redevenu blanc comme neige. Mais n'oublions pas que c'est Jésus le plus heureux lorsque vous vous confessez. Un jour, Gabriel Bossis dit à Jésus qu'elle ne trouve rien en elle qui soit digne de lui être offert. Et Jésus lui répond « Ne t'ai-je pas dit que je suis ce collectionneur de misère ? Je suis ce raccommodeur de porcelaine qui n'est heureux que lorsque son art se déploie sur les 1000 morceaux d'une belle pièce. Je suis ce peintre constant d'avoir ravivé les couleurs d'une toile morte. Je suis ce chirurgien qui a remis solides les membres brisés. Rien ni personne n'est au-delà de mes soins, et mes soins sont gratuits. » Et imaginez la souffrance justement de Jésus lorsque vous ne recourez pas à ce sacrement. Jésus souffre comme souffrirait un médecin dont le fils est malade et le fils ne veut pas recevoir les soins que pourrait lui donner son père. Donc, n'oubliez pas de demander pardon la prochaine fois que vous vous confesserez d'avoir si peu recouru à ce merveilleux sacrement que le Seigneur a institué pour nous rendre de plus en plus beaux à ses yeux. Voilà. Et alors, une fois qu'on s'est confessé, on essaye de demander on demande au Seigneur d'avoir un cœur plus miséricordieux pour les autres. Comment devient-on miséricordieux ? En se souvenant que nous aussi, nous avons été pécheurs et des pécheurs pardonnés. Pour se faire greffer un cœur miséricordieux, il ne suffit pas de prier, il faut se faire marcher sa mémoire. Pour qui je me prends ? Quand je juge de les autres d'une façon un peu trop sévère, c'est que j'oublie que j'ai été moi-même pardonné. J'aime beaucoup interpréter de cette façon-là un verset bien connu de la première épître de Saint Jean. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » On commente souvent ce verset à l'aide d'une philosophie personnaliste. On ne connaît qu'avec son cœur. Qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Moi, je me demande si Saint Jean ne dit pas quelque chose de beaucoup plus simple. Celui qui n'aime pas son frère, celui qui est dur pour son frère, il ne connaît pas Dieu. Oh, si il y croit, il le confesse, mais s'il avait goûté davantage la miséricorde de Dieu pour lui, il ne serait pas aussi dur pour les frères. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est dur vis-à-vis des autres, vous pouvez dire que ce n'est pas tellement de sa faute, c'est qu'il n'a pas encore goûté, dégusté la miséricorde de Dieu. Voyez, quand on se souvient qu'on a été soi-même pardonné de certaines fautes qu'on considère comme inadmissibles de notre part, avec tout ce que j'ai reçu, je suis encore tombé dans cette vanité, dans cette méchanceté, dans cet égoïsme, on n'est pas fier et cela nous permet d'être plus cohérents dans notre vie. Quand on se souvient d'avoir été tellement pardonné, on ne peut plus être dur vis-à-vis des autres. J'ai beaucoup fréquenté à un certain moment Jacques Le Breton. Vous savez, cet homme qui a qui est devenu aveugle et sans main à cause de l'explosion d'une grenade dans ses mains, et qui a péché en abandonnant Dieu pendant plusieurs années et qui est revenu à Dieu par la suite, eh bien cet homme, je crois qu'il était incapable d'être dur pour les autres, tellement il avait conscience d'être un pauvre type que le Seigneur avait ramassé. Quand on a conscience d'être un pauvre type que le Seigneur a relevé, il y a une dureté qui devient pratiquement impossible. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à pardonner. Voyez, Jésus nous a pardonné, il nous demande de pardonner à notre tour. Et alors comment arrive-t-on à pardonner? Eh bien, il y a le pardon humain et le pardon chrétien. Le pardon humain, c'est un pardon que les hommes sont capables de se donner heureusement, que des couples sont capables de se donner sans avoir la foi, sans même connaître Dieu. Je prends comme exemple une juive que j'ai bien connue, Madame Charvet, je peux même donner son nom, qui avait été emmenée en Allemagne en même temps que Simone Veil et qui est passée par l'infirmerie d'Auschwitz. On a même fait sur elle des expériences qui, heureusement, n'ont pas été mortelles. Donc, et cette femme, donc, est restée plus d'une année à Auschwitz. Elle en est sortie. Et dans le cadre d'une amitié judéo-chrétienne à laquelle je participais, elle a accepté de donner son témoignage dans un village aux environs de Douai. Et pour la première fois, ses enfants assistaient à une conférence donnée par leur maman. Car vous savez que, en général, les gens n'aiment pas tellement raconter ces choses-là. Au lieu de se vanter d'avoir été à Auschwitz, ils préfèrent ne pas en parler, tellement c'est dur. Donc elle raconte ce qui s'était passé là-bas, qu'elle avait perdu même une corde vocale. C'est là une séquelle de son séjour à Auschwitz. Et alors, à la fin de la conférence, le curé du lieu lui dit: « Madame, je ne comprends pas comment vous avez réussi à vous débarrasser de votre haine des nazis, parce que vous avez dit que c'était cette haine qui vous avait permis de tenir. Ils ne mourront pas, je me remets en dehors du camp, votre haine vous a permis de tenir. Et maintenant, chère madame, on a l'impression que vous parlez de tout cela en n'ayant plus de taux de haine dans votre cœur. » Réponse magnifique et émouvante de cette dame: « Monsieur le curé, j'ai élevé des enfants et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas élever des enfants dans la haine. » Et cette juive était une juive incroyante. Imaginez les larmes que j'ai vues couler sur les joues de ses enfants qui entendaient pour la première fois leur maman avouer que c'était grâce à eux qu'elle s'était débarrassée de sa haine. Donc quelqu'un qui n'a pas la foi est capable de comprendre que la haine, ça démolit, que la haine, ça démolit le cœur. Donc il y a heureusement beaucoup de foyers non chrétiens qui se réconcilient parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment trop dur de rester comme ça, enfermé dans sa haine de celui qui nous a offensés. Mais le pardon chrétien va évidemment plus loin. Parce que justement, lorsque on a connu la joie d'être pardonné par Dieu, il est beaucoup plus facile de pardonner aux autres. On est des frères pécheurs, on est des frères et des sœurs pécheurs, et donc c'est normal de se pardonner. Et puis surtout, lorsqu'on est chrétien, on a l'espérance. Parce que pour pardonner, il faut espérer que l'autre pourra demander pardon. Vous voyez, le pardon suppose, le véritable pardon, c'est quand on espère se réconcilier, qu'on espère le baiser de paix. Or, si l'autre refuse ce baiser de paix, peut-on pardonner? Oui, s'il en a l'espérance qu'un jour ça pourra se réaliser. Et si ça ne se réalise pas sur la terre, ça se réalisera dans le ciel. C'est pourquoi l'espérance est indispensable au véritable pardon. Je pense à tous ces soldats qui se sont tués dans les guerres et qui se réconcilient dans le ciel. Il y en a comme ça des millions. Ils ont fait leur devoir en tuant l'adversaire et maintenant ils sont tout heureux de danser ensemble dans le royaume du ciel. Voilà. Mais c'est quand même une fameuse grâce que de pardonner. C'est pourquoi il est bon de la demander avec des chants tout simples qui peuvent paraître ringards Mais c'est un chant que j'ai retrouvé en allant prêcher dans une communauté religieuse de l'Est de la France. J'avais complètement oublié ce chant, mais je le trouvais tellement beau, tellement simple, pour demander cette grâce de pardonner. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Et puis, je reviens sur le pardon que nous devons demander à Dieu. Il faut sans cesse, mes chers amis, demander pardon pour son orgueil. Car l'orgueil, c'est vraiment le fléau fondamental. Et dites-vous que les grands saints se rendent compte qu'ils sont orgueilleux. Je reviens sur la petite Thérèse. Quel est le mot qui a aidé sainte Thérèse à progresser? C'est le mot que lui a adressé le père Pichon, son père spirituel, un jésuite, quand elle s'est confessée à lui au début de son séjour au Carmel. Elle avait tout juste 15 ans et quelques mois. Et le père Pichon lui a dit, « Thérèse, c'est évident que vous n'avez fait aucun péché mortel. Supprimez éventuellement les scrupules que vous pourriez encore avoir. Mais remercie bien le bon Dieu, parce que s'il vous abandonnait, vous seriez un sacré démon d'orgueil. » Et Thérèse s'est rendue compte que c'était un mot très important. Elle s'est rendue compte de plus en plus qu'elle était vraiment orgueilleuse. C'est un contresens que j'ai toujours contesté lorsque j'entends des gens dire qu'elle est simple, qu'elle est humble, la petite Thérèse. Non, Thérèse est une orgueilleuse qui n'a fini pas de se convertir. Voilà. Voyez, les saints savent qu'ils sont terriblement tentés par l'orgueil. Mais au lieu de s'en lamenter, au lieu de s'en scandaliser, ils en profitent pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Il faut se rendre compte que la faiblesse fondamentale de l'être humain, c'est cette tendance spontanée à se prendre pour plus important qu'on est, à se prendre pour meilleur. Mais au lieu de se décourager, on dit « Seigneur, heureusement que tu es là ». Et c'est ainsi qu'il faut interpréter une phrase célèbre que Thérèse écrit un an avant de mourir dans sa célèbre lettre de septembre 96. Elle dit, « Oh, si tu trouvais une âme plus faible que la mienne, tu te plairais à la combler de grâce encore plus grande si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. » Qu'est-ce que ça veut dire sous la plume de Thérèse, une âme plus faible que la mienne? Ça veut dire plus faible du point de vue de l'humilité. Voyez, Thérèse sait très bien que l'humilité, c'est pas spontané. Elle a fait beaucoup d'actes d'humilité, mais oh, elle pourrait encore se glorifier de quoi? Un mois avant sa mort, elle confie à sa sœur, à l'infirmerie, « Oh là là, je sens que en ce moment, j'ai des pensées qui pourraient m'emmener dans l'abîme, en enfer. De quoi voulez-vous parler, Thérèse? Eh bien oui, je me dis, c'est quand même pas mal. Ça fait des mois que je suis tenté de douter de l'existence du ciel, et pas une seule fois je n'ai commis un acte de doute. » Car vous savez que Thérèse, on peut très bien avoir des doutes et ne jamais douter. Ce fut le cas de Thérèse. Ne laissez pas dire que Thérèse a douté de l'existence du ciel. Absolument pas. Elle a eu l'impression que le ciel n'existait pas. Mais justement, jamais, jamais, elle n'a douté une seule seconde de cette existence. Elle s'est appuyée toujours sur l'Évangile. Jésus, tu as dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc il y a une place. Et alors, elle se rend compte que un mois avant de mourir, elle pourrait se glorifier intérieurement. C'est quand même pas mal. Jamais je n'ai douté de l'existence du ciel. C'est quand même pas mal. Oh là là. Si je cultivais cette pensée, je tomberais dans un orgueil épouvantable et je pourrais aller en enfer. Voyez, les saints savent qu'ils sont jusqu'à la fin tentés de s'enorgueillir de choses qui sont vraies. C'est quand même pas mal de ne jamais avoir douté de l'existence du ciel alors qu'on est tenté sans cesse d'en douter. mais on pourrait justement s'en glorifier intérieurement, pas seulement sans intérieurement, et tomber dans un orgueil épouvantable, dans un orgueil mortifère. Donc, quand vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous grandissez, que vous vieillissez, que vous avez une sacrée couche d'orgueil qui vous tient, qui est bien ancrée en vous, ne soyez pas catastrophé. Profitez justement de cette faiblesse pour dire « heureusement que tu es là ». Voyez, les saints n'essayent pas de se persuader qu'ils sont parfaits, non. Ils se réjouissent d'avoir cette pente à l'orgueil, en quelque sorte. Comme dit saint Paul, « j'irai jusqu'à me glorifier de mes faiblesses pour qu'habite en moi la force du Christ et l'humilité du Christ ». Voilà. Et puis n'oubliez pas que dans vos difficultés, dans vos tentations, il y a la Sainte Vierge qui est là, que vous pouvez tourner votre regard vers elle, parce qu'elle est l'étoile qui peut complètement changer votre vie, qui peut l'illuminer votre vie. Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Et puis nous terminons par un chant qui chante bien la joie que nous avons d'être pardonnés par Dieu et de pouvoir à notre tour faire miséricorde, d'avoir miséricorde pour ceux qui nous entourent. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi. Seigneur, écoute mon cri d'appel. Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. Voilà. N'ayons pas peur de nous rendre compte que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu et demandons au Seigneur de la faire déborder sur ceux qui en ont le besoin. Oui, que notre prière d'intercession soit forte pour demander la grâce de la contrition parfaite chez ceux qui en ont besoin. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et Esprit Saint, viens envahir mon cœur pour le remplir d'une véritable contrition, d'un véritable regret de mes fautes. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.